Amen, alléluia. Allons nous confier au Seigneur, croire en lui. Alléluia, c'est ça, notre pleine espérance. Notre texte de ce soir se trouve dans le psaume 42 au verset 6. Nous avons trois versets et nous avons un verset. Trois versets et pourtant un seul texte. Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattus mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et maintenant, nous lisons le verset 12. « Pourquoi t'abattus mon âme ? Or, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Et maintenant, nous lisons au chapitre 43, psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. » Alors les psaumes 42 et 43, parce que le 43 était certainement un appendice du psaume 42, si on peut parler comme ça, ils ont probablement été écrits par David dans une des périodes particulièrement difficiles de sa vie. Alors on ne sait pas si c'est quand il était poursuivi par le roi Saül, ou alors si c'était peut-être lors du coup d'état d'Absalom, quand il a été obligé de s'enfuir pour sa vie. En tout cas, il nous livre là les grands combats intérieurs qu'il a eus, et si nous nous plaignons parfois de ne pas avoir la victoire très facilement dans nos propres combats intérieurs, voici l'exemple de David qui nous démontre ici une fois de plus qu'il était un homme de la même nature que nous et qu'il lui fallait lutter aussi contre les trois géants qui ont pour nom abattement. Voilà, donc, et en fait, nous voyons qu'une fois de plus, c'est parce qu'il a eu la victoire dans sa tête à ce moment-là qu'il l'a eu dans les faits plus tard. Pas tout de suite, c'est vrai, il y a encore eu des combats avant, mais c'est parce qu'il a surmonté ses pensées sombres, négatives, défaitistes, qu'il a pu commencer à voir la situation avec l'œil de la foi, et c'est parce qu'il a lutté, qu'il a vaincu ses pensées dépressives, que le retournement de la situation a pu commencer à s'opérer, et c'est à partir de ce moment-là que la défaite et la fuite se sont achevées, et que la résistance, suivie de la victoire, vont commencer à se dessiner. Et c'est pour ça qu'avant de passer à la méditation, à l'étude de nos triplés, si je peux dire, ces trois versets exactement semblables et qui sont nés dans le même contexte, avant de l'examiner, il faut que nous considérions d'abord les pensées qui s'entrechoquent dans l'esprit de David et qui nous montrent combien il pouvait être désemparé, désorienté s'il se laissait aller, et combien donc ces versets lui ont été d'un puissant secours. Et nous avons déjà un exposé de ses pensées du verset 2 au verset 5. Alors déjà, il parle de ses aspirations spirituelles. Versets 2 et 3, je lis comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Voilà. Ça, c'est ce qu'il met en premier. C'est son désir de communion avec Dieu. C'est sa priorité. Quoi qu'il puisse se produire par ailleurs, et au bout du compte, c'est parce que David a toujours cherché, même dans les moments difficiles, premièrement le royaume au bout du compte, même parfois après bien des épreuves, toutes choses lui ont été données en plus. Après, vous le voyez qu'il parle de ses larmes continuelles, de sa grande tristesse, dans le verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est mon Dieu ?» Alors pourquoi est-ce qu'il est dans cette tristesse ? Pas parce qu'on se moque de lui, parce qu'on se moque de sa foi, d'une façon continue, certainement y en a-t-il beaucoup qui le faisaient, et qui mettaient aussi en doute l'existence de Dieu, en lui disant que c'était fini pour lui, que Dieu l'avait abandonné. Et d'autre part, je dirais que sa douleur est d'autant plus vive quand, par contraste, il se souvient des précieux moments de piété en assemblée qu'il a vécu. Ce qu'on voit au verset 5, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Voilà, avec un cœur qui il a beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets. Il se rappelle avec ces moments précieux dans lesquels il montait vers la maison de Dieu, donc avec un cœur qui se fond, il a dit avec effusion de cœur. D'amour pour Dieu, d'amour pour les fidèles, d'amour pour la maison de Dieu. Il se souvient Tu te souviens de cette joie merveilleuse, annonciatrice de la joie du ciel? Il se souvient de ses actions de grâce, ses remerciements, donc exaltés, enthousiastes, et ces instants inoubliables pour lui, et inoubliables, je crois, pour tout vrai croyant de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, qui a connu de tels moments bénis en assemblée, où Dieu a répandu abondamment son esprit pour la bénédiction de tous, et en particulier pour ceux qui soupirent après les choses de la gloire. Amen. Voilà. Et c'est là qu'intervient la première mention de notre texte, hein, verset 6, qui s'adresse donc à l'âme pour qu'elle arrête de s'abattre en lui, qu'elle arrête de gémir, qu'elle arrête de se décourager. Il dit donc en quelque sorte les choses suivantes. Si tu as soif de Dieu, si tu sors après, un soupir après Dieu réellement, eh bien ne te décourage pas et continue. Et continue à le faire en priorité. Parce que quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Et parce que le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis le Seigneur Jésus, il leur fera promptement justice. Et puis, il parle encore à son âme et il lui dit, mais même, imaginons même que qu'il puisse arriver le pire, c'est-à-dire que tu doives mourir dans cette situation périlleuse où tu te trouves, il vaut mieux périr à la limite en cherchant le Seigneur, en s'attachant à lui, qu'être à la place de tes ennemis, même s'ils étaient éventuellement vainqueurs sur ce coup-là. Hein? Et lui dit encore, si tes ennemis s'obstinent à vouloir détruire ta foi en prétendant que Dieu t'a abandonné, ne te laisse pas désarçonner pour autant, parce que lorsqu'ils disent « Où est ton Dieu ?», ils montrent simplement plusieurs choses. Déjà, en premier, ils montrent que Dieu n'est pas leur Dieu, parce qu'ils n'ont pas un Dieu vivant, un Dieu agissant comme toi-même tu en as un, comme toi-même tu as pu l'expérimenter bien des fois. Et en plus, ils montrent qu'ils ne savent pas où est Dieu. Ça aussi, quand ils disent cela, hein, ils reconnaissent donc implicitement qu'ils n'ont eux-mêmes aucune communion avec Dieu, aucune véritable connaissance de Dieu. Et puis la troisième chose qui ressort de cela, c'est qu'ils sont des instruments de l'ennemi. Parce que lorsqu'ils disent sans cesse « Où est ton Dieu ?», eh bien, note bien que leur objectif, c'est de détruire ta foi. Et c'est là bien le travail du diable depuis le jardin d'Éden, où il posait cette autre question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Souvenez-vous, et qui avait aussi cet objectif de détruire la foi. Donc, voilà. Et puis, il rappelle enfin à son âme que si elle garde dans sa mémoire, de si précieux souvenirs, de ces moments de bénédiction, de ces moments de communion, autant de communion avec Dieu que de communion fraternelle, c'est pour la préparer au ciel. C'est pour la préparer au ciel, hein. C'est pour lui donner un avant-goût du ciel. Et puis, nous sommes déjà de grands privilégiés quand nous avons de telles expériences avec Dieu, et il faut donc là aussi effectivement s'en rappeler, comme il s'en souvenir, comme il a dit, avec effusion de cœur, mais pas de façon nostalgique, pas de façon défaitiste, en se disant ben voilà, c'était comme ça, et c'était bien, mais maintenant hélas c'est fini, et puis ça ne reviendra plus jamais, c'est dommage, et puis c'est bien malheureux, et puis il n'y a plus qu'à pleurer, il n'y a plus qu'à gémir, voilà. Hein? Alors il dit voilà, non, là voilà qui secoue son âme. Il secoue son âme et lui rappelle, mais écoute, rappelle-toi que la vie c'est un combat. La vie c'est une lutte, hein. Tant que tu seras ici bas, eh bien rien de terrestre ne te sera définitivement assuré. Hein. Bien des choses peuvent basculer, tout peut être chamboulé d'un moment à l'autre. Tu ne peux pas te reposer sur de belles expériences, tu ne peux pas te reposer sur de belles assemblées. Tu ne peux pas te reposer sur une atmosphère de joie et d'action de grâce d'un moment privilégié. Il faut que tu t'armes de cette pensée et puis que tu sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a déjà permis de vivre et d'autre part pour que tu te fortifies dans une résolution et une décision de la bonne façon. Donc il lui dit, tu vas arrêter de lécher tes plaies, hein. Tu vas arrêter de tes complaintes, tu vas arrêter d'avoir pitié de toi-même, tu vas arrêter de gémir et de te plaindre, tu vas prendre consciemment la résolution de ne pas te laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Tu ne vas plus te laisser aller, mais tu vas te reprendre, et tu vas te mettre volontairement dans la bonne position et dans la bonne disposition. Voilà ce qu'il dit à son âme. Et qu'est-ce que c'est cette bonne disposition? Eh bien, c'est la suite du verset, c'est la deuxième partie du verset 6. Espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Décider volontairement de louer Dieu, de le faire encore et encore. Je le louerai encore, hein, donc avec persévérance, avec continuité, donc entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Hein. Et puis, c'est donc il va être là qu'il va espérer en Dieu, il dit j'espère en Dieu, espère en lui, donc ça veut dire espérer, ça veut dire attendre de lui le secours et la solution en croyant que quoi qu'il en soit, le Seigneur accomplira sa promesse. Et puis, donc, de croire et se rappeler, rester convaincu que Dieu est son salut. Ça veut dire qu'en toute chose, il est capable de le secourir, de le délivrer, et aussi désireux de le faire. Et puis, il lui dit encore une autre chose, il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, hein. Donc ça veut dire que ça reste son Dieu à lui, son Dieu personnel. Et il le fait aussi, pourquoi? Parce qu'il est persuadé que le fait de gémir, de se plaindre, de se laisser abattre ne sert à rien. Plus encore que c'est contre-productif et ça empêche même l'œuvre de Dieu de s'accomplir si ça se poursuit trop longtemps. Nous voyons donc clairement dans un tel passage, quelque part, excusez-moi, la réalité des deux natures du croyant. Hein, on retrouve bien cela, hein, c'est-à-dire d'une part, vous avez l'ancienne nature pécheresse, avec entre autres ces tendances à l'abattement, au découragement, à la pitié de soi, au gémissement, toutes choses qui détruisent la foi, qui mènent à la défaite, et d'autre part, vous avez la nouvelle nature spirituelle, qui ne va pas se laisser abattre, hein, mais qui va continuer à s'attacher au Seigneur, au salut, aux choses d'en haut, à la communion fraternelle, qui va lutter dans la foi, qui va mener le combat spirituel, voilà, donc c'est cela. Après, on avance et on continue, et puis on voit que, malgré tout, l'exhortation est très bonne, mais le résultat n'est pas encore là. Il n'est pas encore obtenu. Hein. Malgré tout, les bons conseils, les bons désirs, les reproches amicaux justifiés, les bonnes paroles inspirées par Dieu, tout le travail ne se fait pas toujours d'un seul coup. Hein. Dans l'existence aussi, on voit cela. Et c'est pour ça, l'être intérieur de David va continuer à être un champ de bataille qui est décrit depuis le verset 7 jusqu'au verset 11. Hein. Et il confesse là que son âme est encore abattue. Verset 7 déjà, « Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. » Voilà, alors expliquons-nous un peu, donc voilà, les raisons pour lesquelles son âme est abattue, ben déjà son exil, son éloignement de la maison de Dieu, de la famille de Dieu et des siens. Et quand il parle du pays du Jourdain où il se trouve, en fait, ce sont les sources du Jourdain dont il est question. Le mont Hermon dont il parle, ça se trouve à l'extrémité nord-est du territoire d'Israël, et c'est même plutôt dans le territoire syrien. Et puis la montagne de Mitzéar, eh bien, c'est à peu près au niveau du plateau du Golan, donc nous voyons bien loin de Jérusalem, bien loin de Jérusalem aussi, et il a été obligé de s'enfuir là, donc, pour échapper à ses ennemis. Et c'est l'exil contribue effectivement à l'abattement de son âme. Ensuite, dans le verset 8, au début du verset 8, voici l'image donc des flots de la mer qu'il emploie aussi. Donc, il dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Alors, probablement est-il là, aux environs de la mer de Galilée, hein, donc qui se trouve tout près de là. Et puis qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là, sous la pluie en plus, les ondées dont il est question là, ben il voit ces flots qui se succèdent, qui s'abattent sur le rivage sans jamais s'arrêter, donnant quelque part une idée d'inexorabilité. Et puis il saisit cette image, il l'applique à sa situation en se disant que Dieu agit de même envers lui, qu'il lui envoie une épreuve après l'autre pour le submerger, qu'il permet un coup dur après l'autre, continuellement, sans rémission, sans repos. Voilà. Alors il est évident que de telles paroles ne peuvent que contribuer à l'abattement de son âme. Hein. Et puis, voilà la nostalgie qui revient. Et là, au début du verset 9, hein, il se rappelle à nouveau les merveilleux, les excellents moments de communion avec Dieu, les bénédictions pleines de grâce de sa part. Verset 9 donc, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Ah oui, voilà. Hein, donc, et vous remarquez que c'est à l'imparfait. Hein. Sous-entendu, c'était le cas. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Voilà, c'est plus le cas maintenant. Et en même temps, il se rappelait combien cette communion avec Dieu était forte, enthousiaste, remplie d'esprit de foi, d'action de grâce, de louange. Hein, donc, j'adressais une prière au Dieu de ma vie, voilà. Et je dirais que tout ça, ça serait très bien. Ce serait très bien s'il en tirait un encouragement pour se remettre à lutter et à espérer en son Dieu. Mais le voilà qui s'en sert plutôt pour manifester son incompréhension et sa déception vis-à-vis de Dieu. Et les questions du verset 10 nous le montrent. Hein. Il dit, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mais on se brise quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Voilà, vous voyez. Donc en quelque sorte, ben voilà, il dit « Puisque j'avais une telle communion avec toi, puisque je te louais même la nuit, puisque je t'appelais le Dieu de ma vie, comme il est dit au verset 9, puisque je t'appelais Dieu mon rocher au début du verset 10, comment se fait-il maintenant que tu m'oublies hein, et puis que tu permettes que je sois obligé de marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. » Et il insiste encore en parlant des persécuteurs qui l'outragent, début du verset 11, et qui persistent d'une façon diabolique, sans cesse, est-il dit là, en tentant Dieu, apparemment sans être châtié par lui, et en mettant Dieu en doute. Et donc face à cette nouvelle vague d'abattement, de découragement de son âme, l'homme spirituel, qui est en David, donc, reprend exactement la même exhortation à son être intérieur. Il reprend son âme exactement de la même façon, sans changer un iota, sans changer une lettre à ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va être l'arme efficace pour remporter la victoire dans ce combat intérieur. Alors rappelons les détails, puisque notre verset le fait aussi. Donc le fait de dire à sa propre âme que l'abattement et le gémissement de soi, c'est une mauvaise chose en fait. C'est un péché. Lui poser la question, pourquoi ? Quelle est l'utilité ? Quelles sont les bonnes raisons de se laisser ainsi abattre et gémir ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme bonne conséquence ? Hein ? Et puis lui indique aussi, la bonne attitude à avoir remplace les gémissements et les plaintes par l'espérance en Dieu. C'est ainsi qu'on ne se laissera pas vaincre par le mal, mais qu'on surmontera le mal par le bien. Et il appelle donc sa propre âme, il rappelle à cette propre âme que lui est résolu, qu'il est fermement décidé non seulement à louer Dieu, mais à le louer encore, à le louer dans la continuité de ce qu'il a déjà fait, à le louer contre vents et marées, à le louer même si les circonstances sont difficiles, à le louer parce qu'il y a toujours et malgré tout d'excellentes et nombreuses raisons de le louer, à le louer non seulement pour ce qu'il fait ou ne fait pas, mais pour ce qu'il est, infiniment digne de louange et d'adoration, quoi qu'il en soit. Amen. Donc, il rappelle que ce Dieu est son salut, donc ça veut dire qu'il a l'assurance du salut, et qui ne va pas se laisser enlever l'assurance du salut par la situation difficile, et ça lui donne aussi l'assurance que, comme il a expérimenté ce salut divin, ce secours divin, déjà bien des fois, et certainement le Seigneur ne manquera pas de le secourir dans la situation présente. Il rappelle donc qu'il est son Dieu, ça veut dire qu'il est toujours en communion avec lui, qu'il a cette relation familière et privilégiée avec lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et c'est donc cette proclamation qui va avoir le dernier mot à la fin du psaume. Hein, donc, et nous savons par l'histoire que ça a débouché sur une victoire, donc ça a débouché sur un retournement de situation, autant dans le cas de Saül que dans le cas d'Absalom, hein, un vrai coup de théâtre, et voilà. Et combien ce passage est précieux pour nous, et je crois combien ça peut être aussi un puissant moyen de prendre la victoire dans notre propre cœur, sur notre propre âme, chaque fois que la tendance à l'abattement, au découragement et au gémissement se fait jour en nous. Amen. Mais nous avons dit qu'il y a le psaume 43 qui est comme un appendice du psaume 42 et qui est donc dans le même esprit puisqu'il nous est répété pour la troisième fois tout ce verset, là encore, sans varier même une syllabe, même pas un iota. Et vous savez, quand un texte revient trois fois dans l'Écriture, exactement répété, ça veut dire qu'il faut que Dieu veut que nous le considérions comme particulièrement précieux et important. Hein, donc, et ce psaume 43 est très utile et très intéressant parce qu'on nous discerne l'évolution intérieure de David. Donc, suite à la mise en pratique de notre texte du jour, eh bien, voilà, nous voyons qu'il y a de bons effets qui se produisent progressivement, mais de façon nette et de façon régulière. Et voici que vous remarquez dans le psaume 43 que le ton de la prière de David a changé. Hein. Donc je lis maintenant, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. » Voilà. Donc voyez ici qu'il est passé de l'abattement à l'indignation. Hein, et il crie à Dieu avec force pour l'apostropher, pour le faire agir, intervenir. Il dénonce ses ennemis sans ménagement. Vous voyez qu'il gémit beaucoup moins maintenant, il est plus en colère. C'est une nette amélioration. Hein. La colère, vous savez, peut être bonne. Lorsqu'elle est légitime, elle peut être même sainte. Sauf que le Seigneur nous prévient, il nous avertit, il dit attention. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit cela, parce que vous savez, quand on se met en colère, le problème, c'est qu'après, on ne se contrôle plus. Et ça, c'est pas bon. Hein. Remarquez qu'on pourrait dire la même chose des gémissements et de l'abattement, dont on n'a parlé pas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des moments où il est légitime de gémir. Hein. Donc, d'être abattu. Il y a des souffrances, il y a des deuils que nous traversons, et il est normal que nous réagissions de cette manière-là. Ça peut faire partie du processus de deuil ou du processus de résilience, comme on dit. Là où ça devient un problème, c'est lorsque ça devient une habitude, lorsque ça devient une attitude, et finalement ça devient un trait de caractère. Et là, il faut qu'on veille. Là, il faut qu'on veille, il faut qu'on réagisse, parce que ça peut venir des fois plus vite qu'on ne le croit. En tout cas, voici donc maintenant David qui crie à Dieu pour être délivré de ses ennemis, dans les versets 1 et 2. Le voilà qui retrouve le puissant argument de la cause légitime qu'il défend. Défends ma cause, Seigneur, la cause du royaume de Dieu, la cause de la gloire de Dieu. Et ça, c'est un puissant argument dans la prière pour être exaucé. Et puis, le voilà qui invoque le caractère divin du protecteur, tant qu'il ne saurait manquer à ceux qui se placent sous son abri. Et le voilà qui demande la lumière de Dieu pour être bien conduit, hein, verset 3, et la fidélité divine en même temps pour être gardée. Pourquoi ? Parce que, justement, à la différence de ce qu'il y avait avant, maintenant il veut bouger, vous voyez ? Maintenant il veut aller de l'avant, il ne veut pas rester là, stagné, avachi, en se plaignant sur place, non, là il veut avancer. Hein, donc, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Voilà, vous voyez, il veut aller à la montagne sainte, à la demeure de Dieu, il a le meilleur objectif, le plus élevé, et il ne veut pas perdre cet objectif de vue, il s'y attache, et ça donne une force nouvelle à sa prière. Vous avez vraiment une conviction puissante et renouvelée qui est là, surtout qu'il explique pourquoi il veut y aller. Il explique pourquoi il veut aller là. C'est pour se réjouir dans la présence de Dieu. C'est pour être dans l'allégresse à cause de sa communion. C'est pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Et voilà aussi qui est un objectif suprême, et c'est ça qui ne perd pas de vue. C'est ça qui le motive fondamentalement. Alors bien sûr, il a encore besoin de secours terrestre hein, dans sa situation. Et il a besoin, c'est vrai, encore de lutter, de combattre pour retrouver la royauté. Donc, il a encore bien des soucis, bien des luttes qui l'assaillent parce que la vie, c'est comme ça, de toute manière. Hein. La vie, c'est comme ça. Et je pense que malgré tout, ce sont des soucis d'une autre dimension et d'une autre urgence que ceux que la plupart d'entre nous pouvons connaître. Mais insistons bien quand même sur le fait qu'il ne perd pas de vue le principal, le plus élevé, ce qui est vraiment spirituel. Et c'est pour ça que le Seigneur va finalement l'exaucer sur toute la ligne, je pourrais dire, comme on le voit, hein, dans les récits de sa vie par ailleurs. Hein. Donc, et là encore, suivant la puissante et précieuse promesse du Seigneur qu'on ne se lassera jamais de dire et de répéter, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Et c'est comme ça que notre psaume se conclut avec le verset 5. Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Mais cette fois-ci, vous avez ressenti la très nette connotation de victoire qu'il y a. Hein, à la différence d'auparavant, David a pris une victoire dans son esprit, dans son être intérieur. Et maintenant, même s'il y aura encore, bien sûr, des combats, des difficultés, il est sur le chemin de la victoire. Et puis victoire aussi, pourquoi ? Parce que cette proclamation qui est contenue là dans ce verset, c'est vraiment le moyen. C'est vraiment le moyen de nous emmener depuis un point très bas où on peut être, comme c'était le cas de David, hein, en commençant donc par un profond découragement, par beaucoup de plaintes et d'abattements, et ensuite en continuant par bien des combats intérieurs, mais parce que cette proclamation n'a pas varié, parce que cette proclamation n'a rien lâché, hein, donc parce que aussi elle donnait cette démarche à suivre, ça a été ça la façon de s'en sortir. Et finalement, c'est elle qui a été, je dirais, le facteur majeur pour aboutir à la délivrance, à la pleine manifestation du secours d'en haut, et puis finalement à la pleine victoire. Et que Dieu nous donne à chacune, à chacun d'entre nous, de bien réaliser et de bien retenir la grande valeur, l'immense valeur de cette proclamation qui nous sera utile certainement aujourd'hui même, et puis dans toute la suite de notre vie ici-bas et notre marche avec lui. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons, parce que c'est vrai, c'est toi qui nous montres les choses, et nous reconnaissons bien chez David bien des situations dans lesquelles nous avons pu être, ou dans lesquelles nous pouvons nous trouver, Seigneur. Et nous voyons bien, même si évidemment ce n'est pas forcément aussi dramatique que lui, bien malgré tout, Seigneur, à notre propre niveau, eh bien nous voyons bien aussi combien ton secours, combien ton soutien sont vraiment quelque chose de précieux et de nécessaire pour nous. Et combien ta parole est là pour nous aider à les saisir, Seigneur, nous aider à nous mettre et à rester dans la bonne disposition pour que justement la victoire puisse être obtenue, pour que nous ne restions pas dans l'abattement, dans le découragement, pour que nous puissions véritablement aller de l'avant en regardant à toi, Seigneur, en prenant ces mêmes positions et ces mêmes résolutions que David a prises. Nous aussi, nous pouvons le faire, chacun à notre niveau, chacun dans notre situation. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia.